Lundi 29 avril, il est 18h43 sur Radio Campus Paris, que vous écoutez en FM ou sur le web, et à 18h48, c'est toujours l'heure de la relève.
La relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, la relève, c'est toujours 30 minutes avec un nouveau talent, mais comme on ne recule pas devant la dépense ce soir, ils sont deux. On va parler de surconsommation et de bouilloire, peut-être. Mes invités sont designers et auteurs. Bonjour Nathan Hubert et Manon Silberzahn.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Campus Paris. Comme je viens de le dire, vous êtes designer et vous publiez ensemble un livre qui, selon moi, a trois intérêts. Il est malin, intéressant et indispensable, et il s'appelle « Vaincre l'obsolescence, mode d'emploi » chez Tana Édition. On vous retrouve aussi sur le site nomsolette.fr.
C'est ça.
Les informations sont à jour. Pour le coup, je ne suis pas obsolète. Tout va bien. Donc, si j'ai tout compris à votre histoire, vous vous êtes rencontrés dans une école de design. Tous les deux, vous étudiez le design à l'époque industrielle. Vous êtes encore, vous avez fini vos études, je ne sais pas, parce que vous êtes très jeunes tous les deux. À l'époque, vous faites du design. Pourquoi ? Vous vouliez produire des objets en plus ou déjà vous vouliez changer le monde ? Alors, c'est Nathan qui répond.
C'est ça. J'ai envie de dire, les objets sont perpétuelle évolution. Hein. On n'utilise pas les mêmes objets aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier, et demain, ce ne seront pas les mêmes. Donc, il y a un besoin, j'ai envie de dire, d'évolution.
Et donc, ça suit les
tendances de consommation.
Vous rappelez, 5-6 ans en arrière.
Ouais. Bah, alors, quand je suis entré dans mes études de design, je voulais faire des voitures, pour être honnête. Donc, il y a eu une petite évolution, parce que dans des écoles de design, on s'intéresse beaucoup à l'environnement, à trouver des solutions. Et après, je ne me suis plus reconnu dans ce mode de transport. Ouais. Donc, j'ai voulu faire autre chose. Et j'ai été sensibilisé aux questions de la pollution des produits, notamment, et d'où ma présence ici.
Et vous, Manon ?
Un peu la même histoire. Moi, j'ai eu un rapport aux objets assez fort dès le début. J'en ai beaucoup cassé dans ma jeunesse. J'en ai beaucoup réparé très tôt.
Pourquoi vous les cassiez ? Pour voir comment ça marchait ?
Par pure maladresse.
Ah, maladresse, maladroit.
Mais très vite, j'ai commencé à en démonter par pur plaisir, effectivement, par curiosité. Et c'est un peu comme ça que je me suis mis à aussi concevoir des objets, d'abord dans l'atelier de mon grand-père quand j'étais jeune, et puis plus tard pendant mes études, effectivement. Et en fait, lorsqu'on s'est rencontré avec Nathan, on savait juste qu'on avait envie un peu de créer des choses et changer le status quo. On s'est vite dit qu'il y avait un impact énorme et qu'on pouvait vraiment agir en amont sur la conception de nos objets pour qu'ensuite ils soient plus soutenables.
Et vous trouvez nos objets d'aujourd'hui, globalement, hein, quand je parle de nos objets, je parle dans le monde, vous les trouvez moches, vous les trouvez pas réparables? Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas dans le monde dans lequel vous vivez?
Bah alors,
allez-y.
Moche ou beau, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est Nathan. Moche ou beau, j'ai envie de dire, ça dépend. Hein. Il y a des objets plus ou moins beaux. Dans tous les cas, en règle générale, ils ne sont certainement pas assez durables. Et donc, c'est-à-dire pas assez fiables ni réparables. Donc, en fait, les utilisateurs, une fois qu'ils ont l'objet, ne vont pas avoir la possibilité de prolonger la durée de vie autant qu'il le faudrait.
C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Repair Café. C'est des associations.
Alors, faut expliquer ce que c'est un Repair Café.
C'est des associations où on répare les objets.
Où vous allez, c'est vous qui allez au Repair Café? Parce que j'ai vu qu'il y a un de vous deux qui y allait.
Oui.
C'est vous deux, pardon.
On est tous les deux bénévoles en Repair Café. Et c'est des endroits où on répare bénévolement des objets pour les gens. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment, ils rapportent ces objets. Et souvent, on n'y arrive pas toujours d'ailleurs. C'est quelque chose de très compliqué. Il y a une vraie friction, un vrai problème. Les objets sont pour la majorité pas conçus pour être réparés. Et c'est un peu d'ailleurs dans cette vocation qu'à la sortie de nos études, on avait lancé un concept d'électroménager réellement réparable.
On en reparlera un peu plus tard. Juste pour commencer, et je devais commencer par ça et puis je me suis laissé emporter par la passion, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait un designer ? Parce que c'est un mot, on entend parler de design.
Oui,
je
ne
suis pas sûr qu'on sache toujours, parce qu'il y a tellement de sortes de designers. Vous, par exemple, on comprend ce que vous dites, il y a des designers, on ne comprend rien à ce qu'ils disent.
Ah oui, oui, oui.
J'en ai déjà croisé, hein,
d'une
école qui n'est pas très loin d'ici, on n'aura pas le nom.
Il y a plein de courants différents, plein de pratiques différentes aussi, et plein de champs d'applications différentes. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Le design, ça peut être un mot aussi vague que la création. Et voilà, il y a des gens qui sont un peu designer star, qui ont un peu une approche d'artiste, qui veulent communiquer des messages à travers leur création. D'autres qui ont une approche un peu plus pragmatique, c'est un peu notre cas avec Nathan. Voilà, qui ont avant tout envie de changer le monde tangible du commun des mortels.
Vous vous sentez plus près donc d'ingénieur que de que d'artistes.
Ouais.
Sans doute. Sans doute, si on devait choisir. C'est un peu à la croisée de ces deux mondes-là, oui.
Alors, pour revenir à l'obsolescence, puisque je rappelle que votre livre s'appelle « Vaincre l'obsolescence », il a une grande qualité, c'est qu'il commence par poser la question « Comment en est-on arrivé là ?» Je ne vais pas vous demander d'ailleurs, plutôt que d'être peut-être dans des postures de dénonciation, vous refusez ça à plusieurs reprises, vous le dites d'ailleurs. Vous parlez d'une société du jetable. Alors, bon, on ne va pas refaire quand même la moitié du livre. Comment vous définiriez cette société du jetable ?
C'est
Et comment on en est arrivé là aussi ?
Comment on en est arrivé là ? Ben, c'est... En fait, on a eu des objets artisanaux. Si on regarde un peu la naissance des objets avec la sédentarisation des hommes et même avant, on a eu des objets toujours qu'on construisait nous-mêmes. Puis ensuite, c'était l'artisan du village, etc. Et il y a une vraie bascule qui s'est opérée pendant la révolution industrielle. Donc c'est la fameuse taylorisation ou la fordisation des objets. On s'est mis à optimiser les processus autant que possible grâce à la machine à vapeur, mais pas que. Et donc ça crée des objets globalement plus accessibles, plus simples à produire aussi, enfin plus complexes à produire, mais qu'on peut produire à plus grande échelle. Et donc ça a en gros rendu les objets plus accessibles. Et aussi ça a eu des conséquences sur la durée de vie. Notamment sur les meubles par exemple qu'on transmettait de génération en génération, voilà, les durées de vie se sont beaucoup écourtées à cause de la valeur, aussi à cause de la qualité. Il y a aussi l'émergence du plastique dont on parle dans le livre qui a joué un grand rôle, hein.
Vous aimez pas le plastique, vous, par exemple?
C'est pas aussi simple à trancher que cela. Non, on pense que le plastique est extrêmement diabolisé aujourd'hui. Il y a des cas où il est très pertinent. Si on regarde notamment d'un point de vue purement environnemental les analyses de cycle de vie, c'est-à-dire des études qu'on fait sur les objets pour savoir quels impacts environnementaux ils ont, et ben on se rend compte que c'est ni noir ni blanc. Souvent, le plastique n'est pas un matériau si intéressant que ça d'un point de vue environnemental. Alors bien sûr qu'il y a plein de problèmes. Le plastique à usage unique, notamment, en pose plein, hein. Et c'est pour ça qu'il y a la loi AG qui a interdit beaucoup d'usages et qui continue à faire et qui va le faire dans les prochaines années. Mais globalement, c'est une question très, très compliquée, on pourrait passer une heure dessus.
Quand vous êtes rentré tout à l'heure dans le studio, ou là, quand vous regardez, qu'est-ce qui vous choque d'un point de vue durabilité ? Alors, je sais bien que vous n'avez pas fait des analyses de cycle de vie. Peut-être qu'il n'y a rien, hein, mais Nathan, allez, jetez-vous.
Qu'est-ce qui me choque ?
Peut-être qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Hein.
Ça, c'est dur. Comme ça, vous,
vous
me prenez de court.
Oui, non, mais
ça a l'air d'avoir vécu quand même. Donc, ouais. On ne boit pas beaucoup de neuf, donc c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire.
Vous aimez plutôt donc le vintage, c'est plutôt une bonne chose quand on voit des objets qu'on vécu.
C'est toujours mieux, oui, de choisir dans le parc existant, je pense.
Oui, bah après on peut parler de tout ce qui est objet électronique, là, si le casque que j'ai...
Moi je pense aux écrans, en fait, je me disais que les écrans allaient peut-être vous choquer, nos écrans plats.
Bah, c'est pas choquant si on les garde le plus longtemps possible et qu'on les remplace pas par des écrans plus fins ou plus grands à la première occasion, en fait. Tant que les écrans marchent et qu'ils marchent longtemps, il n'y a pas de souci.
Il y a quelque chose d'étonnant dans votre livre, c'est que vous parlez à plusieurs reprises de sentiments avec les objets. Vous avez l'impression qu'on n'aime plus nos objets, qu'on a perdu tout lien avec eux et que c'est important de les aimer. Moi, oui, j'adore ce stylo, par exemple, jaune. Ouais, c'est la couleur que j'aime surtout.
Oui, en fait, on en parlait à l'instant de la culture du jetable. En fait, il y a plein d'objets qu'on gardait longtemps et qu'on considère maintenant comme jetables et remplaçables à la moindre occasion. On parle du rasoir ou du briquet, par exemple, dans le livre. C'est des objets qui, avant, étaient conservés plusieurs années parce qu'on pouvait les recharger, changer éventuellement juste la lame. Maintenant, c'est des objets qu'on jette à la moindre... En fait, ils sont faits pour être jetés. Et nous, ce qu'on dit, c'est que cette... comment dire ? Vas-y.
Oui, on perd un peu ce lien d'attachement plus fort. Et ce qu'on défend dans le livre aussi, ce qu'on encourage, c'est l'entretien, la réparation, qui sont des gestes qui viennent finalement renforcer l'investissement qu'on met dans nos objets et donc leur valeur sentimentale.
Alors, j'allais employer un cliché, qui a pris toute une manière de ne pas faire dans l'obsolescence, on va utiliser des images, vous battez en brèche l'idée qu'il y aurait un complot des industriels. Mais pourquoi les objets sont moins réparables aujourd'hui ? On sait ça, ou on a une...
Alors,
idée,
les fabriquer moins réparables, c'est aussi les fabriquer moins cher. Par exemple, on peut...
Il y a des exemples très concrets, hein. Si on regarde, par exemple, pour créer un produit avec des vis... Eh ben, avoir un produit avec des vis, ça signifie mettre des inserts métalliques dans les coques en plastique, ou tarauder si c'est un objet en métal. Ça signifie ensuite mettre des vis, ce qui rajoute les coûts, ce qui complexifie les processus, et ce qui n'est pas forcément aussi, il faut le dire, hein, à la mode. Si on pense à Apple, si on pense à toutes ces marques contemporaines, un peu le less is more, c'est-à-dire les enseignements minimalistes tirés au maximum, c'est plus trop à la mode de mettre des vis. Et donc,
et les business models des entreprises aussi sont aussi faits pour qu'il y ait un remplacement. En fait, elles ne nous vendent pas les pièces détachées nécessaires à la réparation. Elles ne nous vendent pas de produits réparables. Ça pourrait être tout à fait imaginable, et certaines s'y mettent déjà, de vendre des produits, certes un peu plus chers, mais réparables au bout de 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans, on achète les pièces détachées. L'entreprise refait un bénéfice sur ces pièces détachées au lieu de refaire tout un produit, de refabriquer tout un produit.
Mais est-ce que le consommateur est prêt à payer pour réparer ? Parce que ce que vous montrez très bien, c'est qu'il y a plein de cas où finalement, jeter et acheter autre chose, c'est plus intéressant que de réparer. C'est quand même dingue, parce que finalement, c'est ce que vous expliquez, l'objet qui est... Enfin, je ne vais pas répondre à votre place, mais c'est plutôt pour vous lancer. C'est que l'objet qu'on achète, il a été fabriqué en grande série, donc il y a eu des économies d'échelle, on a réussi à baisser les prix. Alors que si on répare, il faut faire appel à de la main-d'œuvre locale qui a un certain prix. Bah alors, on a l'impression que là, le système est fou.
Ouais, c'est en évolution, hein, mais les gens sont de plus en plus en attente de produits réparables. Et le temps que, concevoir des nouveaux produits plus réparables, évidemment, si on dit par exemple du jour au lendemain que tout le monde doit réparer ses électroménagers, ça ne va pas être possible parce que les produits d'aujourd'hui ne sont pas pour la plupart, dans la grande majorité, conçus pour. Donc c'est un processus assez long, mais nous on pense que les gens sont prêts. Là, c'est plus de 80% des gens qui pensent que les produits ne sont pas assez réparables et qui veulent les réparer quand ils tombent en panne.
Alors, vous, dans votre livre, vous dites qu'il y a 6 formes d'obsolescence. On ne va pas faire les 6. Hein. Vous en notez 3 absolues et 3 relatives. La question que je voudrais vous poser, c'est laquelle est la plus facile à arrêter, la relative ? Parce que l'absolu, on ne peut rien y faire.
Oui, absolument. C'est celle sur laquelle
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les obsolescences relatives ?
Il y a deux grandes familles.
C'est Mano qui parle.
Il y a deux grandes familles d'obsolescence. L'obsolescence absolue, qui est en fait lorsque l'objet est totalement inutilisable et qu'on peut donc absolument plus l'utiliser. Et puis il y a l'obsolescence relative où c'est un cas de figure un peu plus relatif, c'est-à-dire que typiquement, des fois on pourrait continuer à utiliser un objet, mais la réparation est trop chère. Des fois on pourrait continuer à utiliser un objet, mais il y a une version techniquement supérieure qui nous intéresse. Ou des fois on pourrait continuer à utiliser un objet, mais il y a cette pub dans le métro qui nous a incité à en racheter un nouveau. Donc ça c'est toutes ces raisons-là qui font qu'on remplace des objets alors qu'en soi... on pourrait continuer à les utiliser.
Donc ça veut dire qu'il faut résister à toutes les injonctions de consommation ? Vous êtes des Amish, comme dirait quelqu'un qu'on connaît ?
Oui, on prône d'essayer de résister un peu à cette consommation effrénée, de résister aux messages publicitaires. Évidemment, c'est très difficile, hein. Ça dépend des études, mais il y a entre plusieurs centaines et milliers de messages publicitaires qu'on voit tous les jours. Donc évidemment, c'est un vrai chantier. Mais oui, ce qu'on prône vraiment dans le livre, c'est consommer moins et mieux.
Vous êtes d'accord ?
Absolument.
Vous parlez de matérialisme sain. Moi, j'aime bien cette expression. Vous pouvez expliquer ce que c'est un matérialisme sain ?
En fait, le matérialisme, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Quand on vous traite de matérialiste, c'est généralement pas très positif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'attacher aux objets qu'on a et qu'on possède déjà, en prendre soin, les chouchouter, un peu comme si c'était des amis. En fait, on est entouré d'un monde matériel et de plus en plus, d'ailleurs, on s'attache au monde immatériel, aux applications, au cloud, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est entouré d'objets qui nous simplifient la vie et que le monde physique qui nous entoure devrait être plus valorisé et plus aimé un peu comme un ami. En fait, on prend soin, par exemple, mon téléphone me rend service au quotidien, je vais essayer d'en prendre soin, Bon, à la limite, le téléphone, c'est pas le meilleur exemple, mais...
Le garder le plus longtemps et pas le changer tous les 2 ans, ou tous les 8 ans.
Ma bouilloire qui me fait de l'eau chaude, je vais essayer d'en prendre soin un peu quand même.
Alors la bouilloire...
Et ne pas la remplacer.
Attention la bouilloire, moi j'ai appris, il faut la détartrer tous les 3 mois. Sinon, on l'use. En fait, on l'use parce qu'elle use plus de courant, et donc la résistance chauffe, c'est ça ?
Bah, c'est ça, en fait, ça crée une sorte de barrière entre l'eau et la résistance. Ça s'accumule, hein. Mais ça dépend, c'est tous les 3 mois, tous les 2-3 mois en règle générale, mais si vous êtes une famille de 10 personnes à Paris où l'eau est très calcaire, ce sera peut-être un peu plus.
Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site Nobsolète que vous avez fait un test de bouilloire, je suis un peu obsédé par les bouilloires, je ne croyais pas que je suis obsédé par les bouilloires, mais il se trouve que, voilà, en plus les bouilloires en ce moment, il y a toute la question de leur composition, mais ça veut dire que vous allez continuer à faire des tests sur votre site internet, vous voulez aussi apporter du conseil concret aux gens ?
Sur notre site, on a dans le blog toute une catégorie de recommandations qu'on fait aux consommateurs. on explique en fait quelles sont les choses à prendre en compte quand on choisit ben, typiquement un modèle de bouilloire ou de grille-pain.
Il y a le grille-pain aussi, ouais.
Oui, des fois il y a des choses qui sont, ben, justement on parle de plastique et de métal, quel choix faire, l'importance de l'entretien, quelques astuces, etc. Et c'est quelque chose qu'on a vocation à continuer, mais voilà, Nobsolete, c'est vraiment un projet global contre l'obsolescence. Et en ce moment, on travaille même sur de la conception d'objets plus durables. Donc,
pour vous, enfin, que vous allez développer vous-même.
Oui.
Juste une question, j'ai déjà dit, je vais le répéter, on est à Radio Campus, ça tombe bien, vous êtes jeune. Est-ce que vous observez dans les gens autour de vous cette préoccupation-là? Est-ce qu'on vient vous demander des conseils ou est-ce que vous êtes plutôt affligé par vos amis? Par ailleurs, vous aimez beaucoup, mais en les voyant se déchaîner sur des applis pour acheter des vêtements d'un côté et puis se racheter des smartphones tout le temps sans trop s'inquiéter, enfin tout le temps peut-être pas, mais souvent sans s'inquiéter. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle génération avec de nouveaux comportements?
Moi, je le ressens. Alors, on est forcément dans un milieu de designers, pour la plupart, qui ont aussi un peu réfléchi à leur relation aux objets. Donc, on n'a pas trop, en tout cas, dans notre entourage de gens qui sont dans l'ultra fast fashion, par exemple. Et en règle générale, par exemple, en Repair Café, plein de gens viennent nous demander des conseils.
Et c'est pour plutôt des jeunes, justement? C'est tous les âges.
Tous les âges.
On en discutait, on interviewe à un moment Julie Madon, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé... qui a écrit une thèse, en fait, sur comment les Français résistent à l'obsolescence. Et elle explique dans cette thèse que les gens, en fait, prolongent la durée de vie de leurs objets pour plein de raisons différentes. Elle fait des portraits sociologiques. Il y a des personnes très âgées qui le font par principe, même pas par raison environnementale. Il y a d'autres qui le font par souci économique. Et il y a plein de raisons qui font qu'on répare ces objets. Et donc, c'est difficile à généraliser. Il y a beaucoup de profils différents.
Ouais, vous avez, y a pas...
On n'a pas aperçu de contraste générationnel, non.
Moi, je pense qu'il y a des... Parce que je n'ai pas fait l'étude sociologique, donc ce que je pense, on s'en fout. J'aurais quand même insisté sur le fait que vous ne faites pas que faire un livre théorique. Hein. On n'est pas que dans le constat. C'est un mode d'emploi, comme l'indique son titre. Hein. Je le redis, vaincre l'obsolescence, mode d'emploi. Chez Tana Édition, et je rappelle vos noms tant qu'on y est, Nathan Hubert et Mano Zilberzan. C'était une volonté aussi d'aider les gens. Vous sentez par alors, puisqu'il n'y a pas de profil type, est-ce qu'à l'inverse, vous avez senti un besoin d'information?
Bah oui, on voulait surtout pas être dans la démarche de juste faire des constats et de proposer des solutions théoriques. On voulait vraiment évoquer des solutions pratiques. Comment moi, au quotidien, chez moi, je peux faire en sorte de garder mes objets plus longtemps, parce que c'est important. Donc on donne plein d'astuces à des gens qui sont pas forcément bricoleurs. En fait, on donne des astuces accessibles à tous.
J'ai appris un truc dingue. Hein. Mesdames, messieurs, vous avez tous chez vous un tournevis universel. Allez-y, expliquez comment, moi je ne savais pas.
Alors l'astuce du tournevis...
Je suis sûr que Pablo le sait ça, mais...
L'astuce du tournevis, je l'ai découverte il y a 3 ou 4 ans quand j'essayais de réparer une grosse machine à café qu'un de mes oncles m'avait ramené. Et en fait, les vis utilisées par le fabricant, comme quand on parlait de produits réparables, les vis utilisées par le fabricant n'étaient pas standard. En fait, je ne me souviens plus quelle forme elles avaient, mais c'était une forme très incongrue. J'ai recherché des solutions pour ça. Et en fait, il suffit d'avoir un stylo bic, de préférence duquel on a déjà vidé toute l'encre. Et donc, on peut faire fondre avec un briquet.
On retire l'encre avant.
Oui, on retire la...
Ouais, on garde juste le truc...
On retire l'encre, on garde juste le plastique quoi, transparent.
On vient faire fondre le polystyrène pour ensuite l'insérer dans l'empreinte de la vis. Et ça crée un tournevis. Le plastique durcit assez rapidement et prend la forme du bon standard vis. Et c'est quelque chose que, effectivement, on a fait une vidéo dessus sur notre compte Instagram qui a beaucoup plu.
Bah oui, c'est tout bête.
Et qu'on a mis aussi dans une fiche pratique du livre.
Mais ça, c'est une disposition d'esprit que vous avez tout le temps quand vous voyez des objets. Moi, en vous lisant et en réfléchissant un peu à mon niveau, je me disais que finalement, il y a plein de trucs, tout ça. Le vrai ennemi contre l'obsolescence, contre ce que vous. C'est la fainéantise des uns et des autres. Enfin, moi, la mienne est abyssale, en tout cas. Et à la fois, quand on vous lit, on est convaincu, mais on se dit, il faut faire tout ça. Comment vous...
je dirais que c'est des réflexes à prendre, et finalement ça prend pas tant de temps que ça. C'est aussi ça
peut, je suis très feignant
pour pour l'entretien, peut-être que l'entretien effectivement ça nécessite un petit investissement, parce que j'ai envie de dire chacun a horreur de se créer un problème alors enfin de résoudre un problème alors qu'il n'est pas encore apparu. Mais bon, ça permet vraiment de prolonger la durée de vie de ces objets. Et ensuite, du côté de la réparation, quand un objet tombe en panne, malgré tout l'entretien qu'on a pu réaliser, il peut y avoir énormément de plaisir et de satisfaction à trouver là-dedans. Nous, en Repair Café, on répare des produits. Quand on fait vraiment économiser aux gens 100-200 euros, ils sont super contents. Et quand eux-mêmes le font, et essayent, ouvrent leurs objets, réparent, ils sont aussi très très satisfaits en règle générale.
Vous aimez la musique, elle est même obsolète. En général, la Radio Campus, elle n'est pas du tout obsolète. Donc on va l'écouter, pardon. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide, and I'm falling like the leaves. The Last Dinner, César on a TV Screen. C'est un extrait de la fresh list. Ne vous inquiétez pas, Pablo, je suis devenu un expert en glissade sur virgule désormais. On est toujours avec Nathan Hubert et Mano Zilberzahn pour vaincre l'obsolescence mode d'emploi aux chez Tana Édition. On va quand même épeler Tana, T-A-N-A, c'est comme ça se prononce. Je voulais vous demander, parce que vous êtes designer, vous l'avez évidemment fait volontairement, ce livre si joli, si vous êtes beaucoup travaillé, la forme, parce qu'il y a, il y a tous ces dessins, il y a une élégance quand on le lit, voilà ce que je veux dire. Il est très élégant, ça vous a pris beaucoup de temps à travailler dessus, et vous vouliez aussi que ce soit un bel objet, j'imagine.
Ah bah oui, forcément, on est designer, donc on est assez... peut-être qu'on a fait souffrir notre éditeur.
C'est ce que j'allais vous demander, votre éditeur a souffert.
Non, mais...
C'était une belle collaboration quand même.
C'est ça.
On a mis un point d'honneur à créer des fiches pratiques, à mettre des dessins, etc., pour que la lecture soit aussi agréable
que
possible.
Oui, mais avec alors un style très épuré, très joli.
Merci.
Ça, c'est ce que vous aimez ? Ça correspond à ce que vous aimez ?
Bah oui, oui, sinon on l'aurait pas fait.
Je pense. Et on est aussi particulièrement fier en tant que designer de comment on a été produit le livre, c'est-à-dire imprimé en France avec des encres végétales et sans pelliculage.
Et c'est pour qu'on le garde, j'imagine. Vous l'avez prévu pour que, puisque vous voulez vaincre l'obsolescence, on peut le garder toute une vie avec soi pour peut-être pas toute une vie.
On peut le passer un ami, mais le but c'est qu'il
finisse pas d'amis.
Poubelle, effectivement.
mes seuls amis sont mes objets. Non, mais l'idée en tout cas est de le faire passer, de le faire tourner. Très bien. Vous avez eu un prix prestigieux, on peut dire le nom de la marque, hein, c'est le prix Dyson, pour un objet que vous avez créé. Il en est où cet objet qui est un outil culinaire? Je ne sais pas comment, comment ça s'appelle. Vous allez le produire, ils vont le produire, on ne peut pas le dire. Pardon, j'aurais...
Non, on est en train de développer un produit de cet ordre-là dans l'électroménager pour en gros travailler sur la durabilité. Il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Là, le concept qu'on avait présenté au James Dyson Award, donc voilà, c'était un concept où on exposait un peu toutes les pistes pour garder ces produits électroménagers plus longtemps. Donc on a fait un design intemporel, on a fait en fait que le produit puisse être ouvert par n'importe qui et qu'on puisse remplacer tous les composants. Donc c'était un peu l'idéal de durabilité. Et en fait à l'époque, nous, ce qui a inspiré ce produit, c'est qu'on avait eu tous les deux des pannes d'électroménager à peu près au même moment. On n'habite pas ensemble. Hein, voilà. On s'est dit, mais quand même, il y a quelque chose à faire et je pense que les gens sont en attente de ça. Donc voilà.
Oui, parce que à part les jeter, les collecter, enfin comme aller à un point de collecte pour les recycler, on peut pas faire grand chose quand
on peut tenter d'aller en Ripper Café. Oui, c'est ça. On peut tenter d'aller en Ripper Café, d'acheter des pièces détachées, mais c'est pas facilité par les fabricants. Donc c'était toute cette démarche sur laquelle on est encore en train de travailler.
On communiquera bientôt dessus sur notre compte Instagram notamment et sur notre site.
Alors c'est comment, allons-y, quel est le nom de votre code Instagram, de votre compte Instagram, pardon.
Nobsolete.fr.
Est-ce que vous pensez que l'avenir de notre rapport aux objets pourrait être le même que ce qu'on a vu dans la cuisine, où on a eu une grande vague de la cuisine industrielle, et puis la télé a rendu à nouveau glam, et puis le Covid peut-être aussi, a rendu à nouveau glam le fait de faire soi-même, de recommencer à produire soi-même ce qu'on achetait avant à l'extérieur. Est-ce que vous espérez un mouvement pareil dans le rapport aux objets, qu'on redécouvre le plaisir de faire soi-même?
Absolument, je pense qu'il y a un retour à la matérialité qui est un peu en train d'émerger. On a vu beaucoup de cadres, etc., un peu chercher ce rapport à l'objet, que ce soit avec des cours d'initiation à la céramique, je caricature un peu, hein, mais ce genre d'initiative. Et on a aussi...
Avec parfois des résultats.
Non, mais l'idée, c'est qu'on a envie un peu de se réapproprier notre monde matériel. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le Covid. Tout comme les gens se sont mis à recuisiner, on a vu dans les statistiques, il y a aussi beaucoup de gens qui sont retournés dans les enseignes de bricolage, qui ont commencé à agir, et beaucoup plus d'ailleurs chez les femmes qu'auparavant, à agir en fait concrètement sur leur monde matériel. Et donc, on est assez, assez heureux de vivre cette époque-là.
Comment on peut rendre le moins sexy ? Parce qu'en fait, on vit dans un monde où il faut toujours avoir plus. Comment on peut rendre le moins sexy ? On peut le rendre, hein. Sexy d'abord.
Rendre le moins sexy, c'est-à-dire rendre la sobriété sexy.
Ça quelque chose qui donne envie.
On peut valoriser le fait de garder un objet le plus longtemps possible. Pour moi, c'est.
Valoriser, oui, mais rendre ça. Je sais pas, je me mets à la place d'un ado. D'avoir le dernier téléphone à la mode, c'est un moyen d'être populaire. De dire, je garde le vieux parce que c'est contre l'obsolescence.
Nous, en tout cas, dans les solutions qu'on voit, c'est de déjà faire des produits, si on veut qu'on les garde longtemps, c'est qu'ils aient un design assez intemporel, qui ne suivent pas forcément la dernière couleur à la mode ou la dernière forme à la mode. Mais y a, pour moi, il y a des exemples. Et par exemple, Fairphone sur les téléphones le fait très bien. Avec, en tout cas, moi, je trouve ça très sexy d'avoir un téléphone et de clamer fièrement qu'on a un Fairphone dont les composants ont été sourcés avec plus de responsabilité et qui est totalement réparable. Toutes les pièces sont changeables, etc.
Vous êtes d'accord? Absolument. Parce que je vous vois de l'iné. Vous êtes plutôt optimiste pour la suite ou ce que vous voyez vous inquiète?
On voit les deux. Hein. Si on a de l'actualité, c'est fascinant. On voit d'un côté Temu, Shine et tous ces grands acteurs de la fast fashion qui montrent que quelque part on continue cette consommation effrénée, mais hélas. Et d'un autre côté, si on a aussi le cadre institutionnel, il y a plein de choses positives qui émergent. Je pense à l'indice de réparabilité qui a été une grande première en France, même avant ça, hein, la loi sur l'obsolescence programmée. On a en France aussi le bonus réparation qui existe depuis peu. Et en fait, il y a un vrai contexte législatif qui est en train d'émerger. Même au niveau européen, il y a l'indice de durabilité qui est en train d'être travaillé. Et donc, on est assez optimiste pour la suite. On pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol et que tout le monde a envie d'agir.
Et vous, Nathan ? Pareil ?
Pareil. Hein, je...
Vous avez un vrai diapason.
Je pense que les gens sont de plus en plus en attente de ça. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate au quotidien. C'est ce que toutes les études qu'on lit disent. Mmh. Et on voit que ça s'agite aussi au niveau des lois et des décideurs publics, donc beaucoup d'espoir.
On ne l'a pas dit, mais c'est un des intérêts de votre livre, c'est que pour les 6 formes d'obsolescence que vous identifiez, à chaque fois, vous donnez des solutions d'action pour les pouvoirs publics, pour le fabricant, mais aussi pour le consommateur, parce que les 3 doivent travailler, les 3 peuvent agir. Il ne faut surtout pas se dire à quoi ça sert que moi j'agisse, puisqu'on ne peut rien faire. Voilà, merci d'être passé, Nathan Hubert et Mano Zilberzan. Je rappelle le titre de votre livre, « Vaincre l'obsolescence, mode d'emploi ». Vous étiez ce soir les invités de La Relève, il est 18h32 et 7 secondes, et je vais me faire disputer, parce qu'après c'est obsolète si je suis encore à l'antenne. Cette émission était présentée par Christophe et préparée par lui-même. La réalisation était assurée par Pablo Expert Glissante. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris à la rubrique podcast. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les précédentes à 19h, c'est la matinale. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour La Relève avec de nouveaux invités. Bonne soirée.